Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Notre Radio Barque d'aujourd'hui est un petit peu particulier dans la mesure où nous recevons un conférencier, David Chanteran, historien, venu à Narbonne parler de Napoléon. Vous avez donné donc, Monsieur Chanteran, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donné donc à Narbonne une conférence sur le thème Napoléon et Venise. Alors vous êtes historien, vous avez diverses responsabilités dans divers secteurs, d'ailleurs enseignement, journalisme. Et là vous êtes venu donc à Narbonne parler de Napoléon et Venise. Alors c'est le cercle Napoléon, c'est une association qui organise ce cycle et ces conférences. C'est peut-être pas familier pour tout le monde, mais d'abord, pourquoi un cercle Napoléon? Pourquoi pas un cercle du Guesclin ou Clémenceau, ou que je sache?
Napoléon focalise et surtout réunit un certain nombre de passionnés, de gens qui sont intéressés à la fois par le domaine, que ce soit militaire ou civil, mais également pour différents aspects de sa vie et de sa carrière. Et puis plus largement, le consulat, l'empire et déjà auparavant la révolution ont été des périodes qui ont tellement compté et qui comptent encore aujourd'hui pour tout ce que cette période a pu apporter dans la formation de notre France contemporaine, que forcément Napoléon attire, passionne, en gros ne laisse jamais indifférent. Donc le cercle Napoléon a toute sa place, et justement cette place elle est bien occupée par des conférences, des animations, et c'est dirigé par Gérald Mongin.
Alors à propos de Napoléon, on parle, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, on dit tantôt Napoléon, tantôt Bonaparte. Bon, alors essayons d'être précis déjà sur le choix des termes. Alors Napoléon, c'est son prénom.
Alors, non.
C'est un de ses prénoms, non? C'est quoi?
Je vais vous expliquer. C'est son prénom, mais c'est un prénom qui a été francisé. Son vrai prénom, c'est Napoléone.
Oui, en Corse.
Et qui était habituellement plutôt utilisé sous son petit surnom, qui était Nabulio, que lui donnaient d'ailleurs régulièrement sa mère et ses sœurs. Et puis, effectivement, au moment où il se fait de la Révolution, où surtout les choses commencent à s'accélérer pour lui et qu'il devient ensuite général après le siège de Toulon, eh bien, il envisage, et c'est ce qu'il va faire, de franciser ce prénom. C'est un cas particulier parce que dans sa famille, le reste de sa famille, sont 8 enfants, frères et sœurs confondus, donc il a un frère aîné qui s'appelle Joseph et qui va devenir Joseph et qui est assez commode finalement. Mais Napoléon, ou Napoléon, hein, puisque c'est le prénom corse, ça ne se francise pas comme ça. Et c'est une particularité, c'est que Napoléon aujourd'hui, qui est devenu un prénom tout à fait connu dans le monde entier, et qui plus est, c'est-à-dire peut-être le plus connu à travers le monde, eh bien étonnamment, ça n'est pas français, c'est vraiment corse. Et cette francisation finalement, elle était un peu poussée, et même... Ce qui est assez amusant, c'est que Napoléon lui-même s'est cherché un saint, parce qu'il n'y en avait pas dans le calendrier, et donc on a retrouvé vaguement un personnage qui avait eu une existence assez importante, et on a bien sûr décidé que ça coïncide avec la date, ou du moins le jour anniversaire de Napoléon lui-même, le 15 août, donc en même temps que l'Assomption, eh bien il y avait une Saint-Napoléon, est devenue d'ailleurs une fête très officielle, cette fois-ci sous le Second Empire.
Ah oui, oui, oui. Mais Napoléon, semble-t-il, était très porté sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la communication.
C'est un homme de communication. J'allais presque dire mes mots de là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce terme un peu impropre parce que on fait parfois des incohérences historiques et puis on a une lecture un peu anachronique des choses. Ça n'est pas de la propagande comme on l'utilisera ensuite sous le XXe siècle. C'est vraiment de la communication, et c'est une communication qui est héritée tout simplement à la fois de l'histoire de l'Antiquité et de la puissance des mots, parce que c'est aussi ce caractère-là qui caractérise Napoléon, et puis aussi parce que la puissance des images, la force même des symboles, et il en est un de symboles que tout le monde connaît, c'est son bicorne. Lorsque Napoléon prend son bicorne, il le dira d'ailleurs lui-même, lorsqu'il est sur le champ de bataille, ça n'est pas 50 000 hommes qu'il a avec lui, mais c'est 150 000, parce que cette façon de porter son bicorne, qui n'est pas en colonne, mais en bataille, c'est-à-dire parallèle à ses épaules, ce particularisme-là va faire de cette silhouette de Napoléon une marque quasi publicitaire avant l'heure.
Oui, et finalement, il était très conscient du rôle de l'image, qu'on appellerait l'image aujourd'hui.
pour une simple et bonne raison, c'est que le taux d'alphabétisation est très faible encore en France. Il va s'accélérer justement avec l'installation d'un certain nombre de réformes, notamment des lycées et du baccalauréat, qui sont dues justement à Napoléon. Et cette amélioration, eh bien, va bien sûr bouleverser ce qu'on appelle l'opinion publique. Mais avant cela, la seule puissance des images et des symboles ont leur importance. Et c'est pour cette raison que Napoléon joue beaucoup sur cela et qu'il comprend que une simple médaille, une simple silhouette, une simple marque, quelle qu'elle soit, et puis la force justement de ces images, peuvent aussi galvaniser et avoir leur importance dans ce qu'on appelle effectivement la communication politique. Mmh.
Alors, David Chantereine, vous l'avez dit, Napoléon et ses Corses, et il faut savoir quand même que la Corse, quand Napoléon a été Bonaparte et Napoléon, la Corse était récemment, je crois même, achetée à la République de Gênes par la France. Enfin,
c'est plus compliqué que ça.
En tout cas, oui.
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit habituellement.
Acquise récemment.
C'est plus compliqué que ça. En réalité, en 1768, lorsqu'il y a le fameux traité de Versailles de juillet 1768, donc quelques mois avant la naissance de Napoléon, qui est né, vous le savez, le 15 août 1769, eh bien, la France, finalement, apporte son concours militaire à Gênes. Et le terme exact, c'est que c'est de la préservation ou de la conservation. Mais c'est pour le compte de Gênes, qui est une république à l'époque. Or, que se passe-t-il ? Eh bien, en réalité, c'est de manière déguisée une façon de s'installer durablement sur l'île. Et il va y avoir un choix qui va être à faire pour les insulaires eux-mêmes. Soit de suivre une certaine forme d'indépendance avec Pascal Paoli, mais je dis bien une certaine forme d'indépendance. Et de l'autre, de suivre cette protection française. Et c'est ce que vont faire notamment les parents de Napoléon, qui vont ensuite envoyer leurs enfants, Joseph et Napoléon, à Autun tout d'abord, et puis ensuite Napoléon ira à Brienne, là où il y a sa fameuse école royale militaire, et puis également une sœur dont on parle peu, qui est Elisa, et qui va faire sa scolarité dans une maison d'éducation que tout le monde connaît, qui est Saint-Cyr, qui était celle qu'avait formée notamment Madame de Maintenon du temps de Louis XIV.
Ah oui, en effet. Alors c'était une sorte de protectorat avant l'heure peut-être ?
C'est à peu près ça. C'est un protectorat d'abord militaire et puis un peu économique. Et d'une certaine manière, ensuite, ça va se transformer parce que la Corse va devenir, entre guillemets, vraiment française. À part entière avec la Révolution à partir de 1789-90.
Et puis l'épisode Napoléon a dû ajouter à cette attractivité ou à ces Alors, liens peut-être.
C'est aussi très compliqué parce que bizarrement, c'est le côté un peu paradoxal de Napoléon, c'est qu'il a cette particularité corse évidemment ancrée en lui, qui va lui coller très longtemps à la peau. Mais d'une certaine manière, il veut s'en détacher, et pour ce faire, eh bien, il aura des relations très conflictuelles avec la Corse, tout simplement parce que on va le considérer comme plus français que les Français, ce qui va lui être également préjudiciable d'un point de vue insulaire lorsqu'il reviendra en 1792, et puis il quittera quasiment définitivement la Corse en juin 93. Et après, eh bien, il va avoir une politique vis-à-vis des Corses qui est un peu sujette à caution du côté de l'île de Beauté. Et les relations sont un peu conflictuelles. Même encore aujourd'hui, la postérité de Napoléon n'est pas tout à fait encore acceptée par toute l'île. Il reste un héros, évidemment, pour une grande partie des Corses, mais autant il est célébré et commémoré avec beaucoup de force et d'enthousiasme à Ajaccio, mais dans le reste de l'île, c'est un peu plus compliqué.
Ah bon ? Et alors, justement, à propos de relations, enfin, pas forcément très proches et pas forcément très chaleureuse. David Chantereine, vous avez donné une conférence à Narbonne sur le thème Napoléon et Venise, et il semblerait que l'idée qu'avait Napoléon de Venise n'était pas particulièrement flatteuse non plus.
Ben, c'est-à-dire qu'il applique, on est à ce moment-là au moment du directoire, et la politique du directoire, c'est de créer un peu partout en Europe, autour de la France républicaine, une sorte de glacis, de protection pour installer d'autres républiques, ce qu'on appelle des républiques sœurs. Et parmi ces républiques sœurs, eh bien, Bonaparte lui-même, avec ses armées, va instaurer une république cisalpine, une république également en Suisse, république helvétique, etc. Et cette protection autour de la France républicaine va permettre aussi de diffuser les idées forcément de la Révolution. Mais pour Venise, c'est encore particulier. Autant Napoléon a pu s'installer assez rapidement avec le soulèvement des patriotes à Gênes, dont on parlait tout à l'heure, parce que Il a une très bonne connaissance de la République génoise, est en Corse. Mais pour ce qui concerne Venise, c'est un cas un peu particulier, puisque c'est une république, effectivement, mais qui est dirigée par deux conseils, dont le fameux conseil le plus important, qui a à sa tête le doge. Et cette puissance à la fois maritime et économique, et puis plus largement politique qu'est Venise, ne l'entend pas de cette oreille et ne souhaite pas justement voir arriver les troupes françaises comme des troupes au départ d'occupation et puis aussi peut-être de libération d'un système qui est quand même bien huilé et bien rodé depuis plusieurs siècles. Donc les relations sont très compliquées. Bonaparte applique finalement l'idée générale de la République, même si le directoire concernant Venise est un peu entre deux eaux. Mais Bonaparte, lui, a une ambition personnelle très importante et il sait que la puissance du symbole qu'est Venise peut avoir une incidence très importante, notamment pour son destin personnel, et c'est ce qui va être le cas.
Oui, il y avait déjà à l'époque la notion de prestige, on peut l'imaginer.
Complètement, et d'ailleurs, pour donner une idée à nos auditeurs, il n'est que de rappeler, par exemple, les fameux chevaux de Saint-Marc. Eh bien, ces chevaux de Saint-Marc, Napoléon y tient absolument, il souhaite que ces chevaux reviennent à Paris pour montrer tout d'abord la puissance qui est la sienne et pour surtout marquer les esprits en se disant qu'il est parvenu, lui, alors après tant de siècles de puissance vénitienne, à imposer ses volontés et en particulier à faire de cette, entre guillemets, prise de guerre un symbole très fort qui sera ensuite peut-être un couronnement particulier d'un des monuments de Paris, ce qui était l'idée première de Bonaparte.
Et alors, pour terminer cette première partie, David Chantoran, comment s'y prend-il pour arriver justement à mettre le grappin, entre guillemets, sur Venise ?
Eh bien, il fait exactement ce qu'il avait fait auparavant dans d'autres lieux, en sachant là cette fois-ci qu'on attend que les mêmes effets produisent, enfin que les mêmes conséquences soient arrivées après les mêmes effets qu'il va mettre en place, et il se rend compte finalement que sa stratégie, sa tactique politique, elle est lue par tout le monde. Donc il va avoir beaucoup de difficultés à soulever justement une partie des populations qui ensuite doivent appeler les troupes françaises pour venir à leur secours, et donc il va falloir jouer un petit peu subtilement avec non seulement les membres influents de ces différents conseils vénitiens, mais surtout faire en sorte que le doge par lui-même, laisse le pouvoir en place et le donne directement à Bonaparte, ce qui va être fait avec différentes tactiques différentes et ce qui va permettre à Bonaparte finalement d'entrer dans Venise un petit peu difficilement. Il va y avoir des exécutions sommaires, il va falloir qu'il impose sa volonté politique. Et ensuite, il va en faire un symbole de son pouvoir, parce que revenu cette fois après le consulat et l'empire, il va faire de Venise une place forte de sa puissance impériale. Et pour ce faire, d'ailleurs, il va y installer un personnage très important de cette époque, comme vice-roi d'Italie, son propre beau-fils, le fils donc de Joséphine. Et c'est Eugène de Beauharnais qui va devenir donc vice-roi d'Italie et qui va s'installer notamment à Venise.
On marque, David Chantoran, une première pause.